Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Du tout terrain aujourd'hui à l'affiche de cette émission avec notre ami Guy Pilarzi. Guy, bonjour.
Oui, bonjour la biche.
Guy, bien rentré de Bolzelle d'abord avant tout.
Ah oui.
Parce que j'ai l'impression que le dimanche dernier j'ai écouté un peu l'émission et j'avais l'impression que tu t'envolais. Alors dans les airs, je sais pas, hein, parce que tu es quand même assez costaud quand même. Hein.
Volumineux.
Oui. Mais bon, j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de vent.
Oui, en effet, beaucoup de vent. L'année passée, c'était de la pluie. L'année prochaine, de la neige, bah, peut-être.
Hein. Bon.
Mais même notre balou national...
Oui. Encore plus mieux que toi, encore.
Ne s'est pas envolé, mais il a perdu un quarter de sa baie.
Oh là 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 là, quelle affaire. C'est anglaise, hein, c'est moto anglaise, hein. Quelle affaire. Bon Guy, tu nous proposes de revenir sur le championnat du monde de motocross qui comptait 19 épreuves en 2017.
En effet, oui. Donc les motocross Grand Prix, GP, le motocross, le MX2... Les féminins, le sidecar cross, et le motocross des nations.
Alors le championnat du monde s'est terminé le 17 septembre en France. C'était en France, sur le circuit de Villars-sous-Écot.
Villars-sous-Écot, effet.
Dans le Doubs, en fait, et la région de Bourgogne-Franche-Comté, pas très loin de Montbéliard.
Voilà, et je te rappelle qu'il y avait deux grands prix cette année en France.
Voilà. Tiens, j'ai regardé le résultat du championnat du monde féminin. Hein, c'est incroyable parce que la première, 233 points. La deuxième, Livia Lancelot, 232. La troisième, 231.
Et la quatrième.
Ça s'est joué à un point, pas possible. C'est incroyable, ça.
Ah ouais, il y avait six épreuves, donc il y avait 12 manches. Ouais, c'est une première d'être si près les unes des autres.
À un point au dernier Grand Prix.
Oui.
Incroyable.
Et malheureusement, on en reparlera tout à l'heure, elle est vice.
Ah oui, bah écoute, ça arrive aussi, hein, il faut toujours un deuxième aussi, voilà. On parlera aussi du Grand Prix des Nations qui s'est disputé le 1er octobre sur le circuit britannique de Matley-Bazin. Bassin. Donc l'équipe de France de motocross a remis son titre en jeu après s'être imposée en 2014, 15 et 16. Et en 2017, elle gagne encore une fois ce Grand Prix des Nations. Comment se fait-il que les Français aussi dominent cette compétition?
Écoute, on aura Pascal Audiquer qui sera à l'antenne pour nous parler, parce que lui, il était sur place. Et c'était son 34e motocross des Nations.
Ah oui, c'est pas un père Vaudelet.
Voilà.
D'accord. Oui. Bon, voilà. Donc, après, nous allons partir à Beauvalenco avec Pierre Dehan au téléphone. Hein, parce que l'épreuve, c'est aujourd'hui. C'est une épreuve de motocross à l'ancienne.
Oui, c'est une épreuve, mais enfin, c'est plus un entraînement qu'une épreuve avec des points, etc. Quoi, hein. Et c'est une épreuve qui se déroule chaque année au mois d'octobre, en espérant qu'il n'y a pas trop de pluie. Parce que ça se déroule dans une prairie, on aura Pierre tout à l'heure.
Et pour terminer, on partira aussi à Calais avec José, qui propose une expo moto, donc à moto ancienne, à Calais.
De moto ancienne à Calais, c'est son deuxième salon.
Très bien. Bonjour Laurent.
Eh bien, bonjour Laurent. À tous.
Ça va, la technique c'est bon?
Bon,
tout,
ça a l'air.
Tout est réglé, parce que j'avais l'impression que tu étais un peu stressé là en arrivant.
Non, parce que j'ai été aux toilettes, c'est pour ça.
She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. No. all the vampires walking through the valley. Move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm
Magazine de la moto, c'est sur campus tous les dimanches 11h, 12h30. Aujourd'hui, un spécial tout-terrain avec Guy Pilarczyk. On parle, Guy, donc de ce championnat du monde de motocross qui s'est terminé le 17 septembre. Ça s'est passé en France, du côté de Montbéliard.
À Villars-sous-Écot. Voilà. Donc, comme tu dis, les championnats se sont terminés. Fini la terre, maintenant on parlera, le sable va arriver et la glace même après. Donc en MXGP, il y a eu, comme tu disais, 19 Grands Prix. Donc ça nous faisait quand même 38 manches. C'est un Italien qui remporte cette épreuve pour la 9e, c'est son 9e titre. Alors là, il s'attaque au 10e titre pour l'année prochaine. Mais il aura quand même quelques problèmes avec un jeune Hollandais, Jeffrey Herling, qui termine second cette année et il est revenu sur lui. La bagarre va être pas facile. En troisième position, c'est un Français, Gauthier Paulin, sur une moto européenne, Husqvarna. Alors, comme tu disais, il y avait deux Grands Prix. Hein. Il y avait Herné, je pense que tu avais été, je crois, la miche à Herné. Et tu as été surpris, emballé même emballé. Par le public.
Je ne suis pas fanatique de motocross, mais là, franchement, j'ai trouvé le spectacle assez incroyable.
Hein, en effet. Et je rappelle, pour mémoire, Herné va avoir le Motocross des Nations dans 2 ans, en 2020. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas rater. Donc, en 6e place, Clément Fèvre. Clément Fèvre, il a été champion du monde en 2015. Et là, il y a eu quand même quelques problèmes physiques, problèmes moraux. Enfin, il termine 6e de ce championnat. Ensuite, il y a Tim Geiser qui a été champion du monde en 2016. Mais bon, il s'est blessé. C'est un Slovène. Par contre, son mécano, c'est un gars du Pas-de-Calais. et on aura l'occasion de l'avoir dans les studios, bien au téléphone, pour nous explique un peu ce qu'il fait auprès de ce champion. 29e, c'était un nordiste, Milko Podisek, mais bien sûr, il n'a pas fait tous les grands prix, étant donné que bon, il a été remercié par sa marque, enfin par son manager. Donc il est revenu à faire 2 ou 3 grands prix en fin de saison. Il était présent à Ernée. On passe en MX2, c'est un Letton, Paul Jonas, qui remporte le titre de champion du monde. Et Paul Jonas n'est pas un étranger parce qu'il a été déjà champion du monde ou d'Europe en 85 cm cubes, enfin dans les petites cylindrées. Et là, victoire un peu partout. Alors, il était suivi par un Suisse, Jeremy Sayer, qui roule sur Suzuki. Et troisième, c'est un Danois, Thomas Olsen. Et on avait en place aussi un Français, Benoît Paturel, qui devait terminer troisième. Mais il s'est entraîné à Villers-sous-Écot pour la finale du championnat du monde MX 2, et il s'est blessé, donc il a loupé 3 grands prix, mais il termine 5e. Et tu sais que à Kikaku, si on parle des premiers, on parle toujours du dernier aussi. Alors en MXGP, c'est un Indonésien, Farhan Andros, qui marque 1 point, alors que Antonio Garoli, 722 points, tu vois, bon, il y a encore de la marge.
Il peut encore progresser.
Oui, voilà. En MX2, c'est un néo-zélandais, Aaron Tati, 1 point. Ensuite, tout à l'heure, on parlait des féminines. Tu as eu l'occasion aussi de voir à Ernée une manche de ce championnat. Et la dernière manche s'est déroulée à Villers-sous-Écot, mais pas sous la pluie, mais une terre très lourde. Donc il y a eu plusieurs chutes, dont Livia, malheureusement. Et pour un seul point, comme on dit, un point c'est tout. Mais bon, c'est toujours un point. Alors Livia termine vice-championne du monde.
Elle aurait pu aussi finir troisième, hein, parce que, comme on le disait dans le sommaire, un point sépare hein, entre la deuxième, troisième, et puis aussi un point entre la première et la deuxième.
Hein. Et entre la troisième et la quatrième hein, aussi.
Et quatrième aussi.
Alors. Ouais, c'est une Hollandaise. Donc, Livia dépose les armes, ne fait plus le championnat du monde, mais fera peut-être le championnat de France féminin ou des épreuves annexes. Un petit mot sur Amandine Verstappen, c'est une Belge, mais elle est licenciée à Condé-sur-Escaut chez Jean-Michel Sulski. Elle termine 6e du championnat du monde. Alors c'est quand même bravo, hein, parce qu'on l'a déjà eu au téléphone.
Peut-être elle qui remplacera peut-être Livia Lancelot.
Peut-être, pourquoi pas. Oui, parce que c'est enfin, bien que c'est une Belge avec une licence française, mais bon,
peu importe. Hein.
C'est une Française.
Voilà. Hein.
Et la 48e, c'est la dernière, c'est Novita Arjani, c'est une Indonésienne avec 1 point. Et maintenant, on part en sidecar cross, parce qu'il y a un championnat du monde aussi. Alors, voici 2 ans, figure-toi que Nicolas Musset, qu'on a eu au téléphone, et son cousin Valentin Giraud, pardon, et son cousin Nicolas Musset, comme singe, avaient fini vice-champion du monde. Malheureusement, l'année dernière, il y a eu un accident. Puis ensuite, ils se sont séparés. Une histoire de famille, enfin, on ne sait pas trop. Donc, le singe, il est parti rouler avec Etienne Bax, qui est hollandais et qui remporte le championnat du monde. Et Valentin Giraud, avec un singe laiton, termine second. Il y a à peu près une trentaine de points de différence, mais bon, ça sera peut-être pour l'année prochaine. En troisième position, c'est Daniel Willensen, qui y avait déjà 10 titres de champion du monde de sidecarcross. Et il est aussi importateur des moteurs Zabel. Zabel, c'est des moteurs spécifiques de hors-bord au départ et ensuite de sidecar cross. Et on termine avec le 61e pilote, le dernier pilote du championnat du monde de sidecar cross. C'est un Tchèque, Ladislas Pek, avec Jaroslav Gregski, avec un point. Alors ensuite, on va parler du motocross des nations. On aura au téléphone Pascal Audicaire, qui est reporter. Il faudra lui aussi lui souhaiter un bon anniversaire, parce que Pascal fêtait à Villers-sur-Écho son 500e Grand Prix.
Oui, non.
Faut le faire. Hein. Donc voilà.
Et rappelez aussi que le motocross des nations est l'une des plus anciennes compétitions officielles. Hein.
En effet, aussi.
Existant au calendrier de la discipline du motocross de la FFM.
Mais de la FIM.
De la FIM.
Mais faut pas oublier aussi qu'il y a eu le motocross des nations et le trophée des nations. Parce que le motocross des nations, c'était spécifique aux 500, le trophée aux 250. Et il y avait même la coupe des nations qui a duré que 3 ans pour les 125. Musique.
Le magazine de la moto sur campus le dimanche 11h. Guy, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir Pascal Audicaire hein, pour nous parler de ce fameux motocross des nations que les Français ont encore remporté.
Pour la quatrième fois.
Quatrième fois.
Mais
alors, moi j'ai une question, comment ça se fait que les Français sont aussi balèzes dans cette compétition?
Eh ben, c'est parce qu'au départ c'était pas évident. C'est peut-être aussi à cause du terrain assez lourd. Il pleuvait, enfin il pleuvait pas, mais il y avait une bruine. Donc c'est peut-être aussi comment ils sont spécialisés dans ça, quoi. Parce que les deuxièmes
sur 4 ans déjà.
Je vois le deuxième pays, c'était la Hollande. Et la Hollande, elle est plus spécialisée dans le sable. Mais bon, bah, terminé que seconde. Et l'Angleterre aussi, parce que l'Angleterre, il y a un pilote qui avait gagné deux manches, je crois, ouais. Et elle finit troisième. Un terrain, je dis, détrempé, avec pas mal d'ornières. Bon, c'était un peu pile ou face, mais bon, tu vois, la France, elle est quand même, c'est un pays quand même, bon, maintenant, il y a quelques années, c'était, on faisait, comment dire, office de pays participants, mais sans plus, quoi. Hein, on terminait 5e, 6e, 10e, maintenant, bon. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que les USA.
Alors, j'ai vu ça, ouais. 9e.
Ouais, 9e, hein. Mais bon, c'était pas les meilleurs guidons non plus qui sont venus, mais même s'ils sont pas meilleurs, c'est des mecs qui avancent quand
alors
même.
Qui vient participer justement donc à ce motocross des nations, parce que c'est sur avec 4 pilotes. C'est ce que ça se fait, hein.
3 pilotes.
3 pilotes.
3 pilotes. Hein. Alors cette année,
on prend les meilleurs du pays ou quoi?
Les meilleurs, parce que en France, il y avait Romain Fèvre, bon, j'avais dit qu'il finit 6e. Gauthier Paulin, 3e du championnat MX2. Et il y a Christophe Charlier. Alors Christophe Charlier, figure-toi, il faisait du motocross et il était parti faire de l'enduro. Et il avait gagné aussi aux 6 jours qui se sont déroulés à Brive. Et il y avait deux pilotes comme Benoît Paturel, normalement qui avait fini troisième en MX2. Il était membre de l'équipe, mais il s'est blessé. Donc il fallait trouver quelqu'un. Et ce troisième pilote, bon, il a bien roulé parce que dans une manche, je crois qu'il fait 6e. Et puis avec, je crois, plus de 11 points d'avance sur les Pays-Bas, bon, la France, elle a monté sur le plus haut marche. Alors, du podium.
Comment ça marche? Les pilotes ne partent pas ensemble?
Non, bon, parce que faut pas oublier qu'il y avait, je crois, 35 pays, tu vois, 35 pays à 3 pilotes, bon, ben, ça fait plus de 100 pilotes, bon, on fait pas partir 100 pilotes à la grille de départ. C'est samedi, on fait des qualifs. Et à certains pays qui ont été en série B, c'est une épreuve qui s'est déroulée après ou pendant le samedi ou le dimanche matin. Et bon, bah, c'est les meilleurs temps au chrono qui les meilleurs pays. Donc il y a une manche par exemple MXGP. Bon, c'est les cylindrés. Tu peux rappeler les cylindrés MXGP.
Alors 450 cm3
et plus.
Et plus, voire.
Et plus.
Ouais.
Et MX
affinité.
Voilà, c'est ça. Donc il y a une épreuve, qui se déroule avec ces motos-là, MXGP et MX MX2. Et il y a aussi Open. Tu vois, il y a toujours 2 pilotes. Il y a 3 manches, mais il y a que 2 pilotes par nation qui disputent une manche. Ensuite, comment est calculé les points? Ils prennent les six temps des 3 pilotes. Hein, le plus mauvais classement. Donc voilà, comment ça se déroule
c'est pas aussi compliqué qu'en vitesse pour faire la pole, hein.
Ouais,
avec les rattrapages Q2, Q1. Voilà.
C'est un peu plus c'est rien, quoi. Un petit mot aussi, parce que tout à l'heure je te parlais des il y avait un pilote en MX2 qui s'appelle Jérémy Seyer c'est un Suisse qui roule sur Suzuki. Et Suzuki, je crois, va arrêter les Grands Prix de motocross pour se centraliser sur les motos de Grands Prix de vitesse. Parce que bon, ça a un coût, voilà. Et il y a aussi un Belge, Stribos, qui roule en MXGP, ben, là, ils cherchent une monture pour l'année prochaine. Voilà, et à un moment donné, ça coûte cher, parce que t'as vu ARD, enfin bon, ils viennent pas avec une remorque. Hein,
Oui, c'est vrai, c'est vraiment des gros camions, hein, ouais, des semi-remorques, tout équipés, voilà. Avec la mécanique derrière, l'intendance devant, donc pour les repas et tout ça, la cuisine.
Les cuisines,
et le masseur, ouais. Aussi, le massage.
Ouais, ouais. Ouais. Et puis, parce que juste à côté, il y avait Milko Podisek avec sa petite camionnette.
Une petite camionnette.
Ouais, alors.
Là, c'est là qu'on voit un peu quand même. Bon,
ouais, ouais, mais enfin bon.
Il peut encore progresser.
Ouais, il peut faire grossir son camion. Ben voilà, ben écoute.
On va essayer d'avoir quand même
Pascal.
Pascal, pour nous dire un peu. Parce qu'il était présent là-bas, donc.
Ah voilà. Ouais, il était présent.
Et puis lui c'était bon anniversaire.
Ouais, bon anniversaire. Et puis c'était son 34e Motocross des Nations. Donc,
en plus.
En plus, ça fait 34 ans.
Il faut l'avoir au téléphone.
Voilà, sans problème.
Oui, on part en Normandie, à Beauvalenco exactement, et nous avons au téléphone Pierre Dorn.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Guy, ça va?
Ouais, ça va, ouais. Alors, bon. Il paraît que la terre, elle est molle.
Elle est un petit peu molle, hein, parce que hier, en fait, j'étais venu hier pour éventuellement coucher sur place, mais hier soir, il est venu une averse. Donc j'ai vite remballé, et comme j'habite à 70 km, je suis rentré chez moi. Bien.
Ah, t'es rentré chez toi?
Ouais. Et donc, la terre, est, c'est vrai que, bon, c'est une, comme je dis, une terre normande, avec de l'herbe encore.
Ouais.
C'est très mou, mais bon, ça va. Je pense que d'ici le soleil commence à arriver, je pense que cet après-midi, ce sera plus agréable. Mais d'accord. Je me suis fait plaisir malgré ça ce matin.
Ah bon, voilà. Bah c'est bien. Bon alors, Pierre, toi qui fais le championnat ECMO cette année, c'était dans les plus de 60 ans, tu finis quatrième, si je me trompe.
Plus de 60, plus de 66 maintenant.
Ah, plus
de... Aïe. Ah, ça me vieillit, ça, oh là là. Parce que je suis de janvier 50, je vais avoir donc 68 ans bientôt, ouais, hein, ça va arriver vite. Hein.
Oh là là.
Par contre, j'ai fait, je précise, j'ai fait donc les nations en plus de 60 ans parce qu'il n'y avait pas d'équipe en plus de 66.
Ah, en plus,
voilà.
Oui.
Ça commence à trouver des vieux, c'est difficile.
Oui, parce que là, tu parles du motocross des nations des anciennes qui s'est déroulé au Danemark. Hein.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Alors, là, vous faites, la France fait second, alors qu'au motocross des nations qui s'est déroulé en Angleterre, la Hollande finit deuxième.
Hein, ben oui.
Bon, il y a eu... vous l'avez disputé avant, quoi.
Ouais, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a raté une manche parce que mon copain Claude Martineau, il s'est fait percuter par un viking.
Ah. C'est pas bon, ça.
C'est pas bon. Un grand suédois blond, je sais pas d'où il venait, celui-là. Et donc, ce qui fait qu'il a donc été obligé de redresser son sélecteur. Ouais. Il avait donc plié son sélecteur, redressé, tout ça, le temps de repartir, il n'a pas pu remonter, quoi. Et donc, on a perdu les 5 points, c'est par ce problème, quoi. Voilà.
D'accord. Alors, il faut bien souligner que vous étiez 4 et 4 sur des BSA Victor, hein.
Ah oui, absolument, oui. Des B-44 hein, de 1965, ouais. Avec un cadre quand même qui a été refait. Il faut dire que les cadres maintenant, les anciens cadres, c'est très difficile de rouler avec. Donc on fait fabriquer les cadres, on remet une fourche Ariani, on met des bons amortisseurs qu'un monsieur Dorover nous fait, un Belge qui est connu dans le motocross.
Ouais, c'est ça.
Et
ouais.
Donc on les recompose l'hiver, quand on se met ça sur une table et on les refait parce que bon, il y a bien sûr on ne trouve pas ça en magasin.
Mais sinon, disons pour retaper une BSA pour rouler actuellement, ça coûte quand même de l'argent, non?
Ben oui, déjà un moteur pour le refaire, c'est vrai que bon, allez, je vais aller jusqu'au bout. De toute façon, il faut compter minimum 10 à 12 000 euros pour avoir quelque chose. Ah oui, voire plus quand on... Bon, j'ai mon copain Roger Brolet, lui, il va un peu plus loin, il met tout en titane, donc ça lui revient encore plus cher, bien sûr, mais... Mais bon, ça dit quand on aime, on ne compte pas.
Ouais.
Mais c'est vrai que...
Et Roger, qu'est-ce qu'il a fait au Danemark, alors
Ben Roger, je suis content, c'est la première fois que je peux le battre sur une manche, quand il finit juste derrière moi, que habituellement il est toujours devant moi, largement devant, mais là, le sable, il aime pas le sable, il m'a dit. Alors voilà, donc j'ai... Et même au chrono, le matin, je finis largement devant lui, donc j'étais super content. Quoi.
Oh, je connais pas Roger, mais il m'a l'air très, très sympathique, ce Roger.
Très gentil, très sympa et très, très professionnel.
Voilà. C'est aussi pour les auditeurs qui ne le connaissent pas.
Oui, voilà. C'est un gars très professionnel. Son hiver, il le passe sur ses motos, il les prépare. C'est vraiment quelqu'un de très méticuleux, très soucieux du petit détail. Donc il a une moto que personne n'a, on va dire... surtout en France, quoi. Il a vraiment le top du top.
Ah,
de la
le
moto,
top, oui, en effet, oui.
Elle est hyper légère. Enfin, il fait vraiment tout pour que ce soit hyper léger. C'est une moto vraiment et avec une puissance phénoménale. Voilà.
Alors, Pierre, toi, tu as fait bon le championnat ECMO, tu as fait le motocross des nations des anciennes, mais tu roules un peu partout. Tu as été en Suisse, tu as été en Écosse, tu as été en...
J'étais... Bah, tu sais, les Ross, ça fait connaître beaucoup de gens. Et je fais connaissance d'un Écossais... Il m'a tellement embêté, entre parenthèses, pour venir rouler chez lui en Écosse. J'étais roulé à Le Kirby, là, et donc voilà. Et puis je suis invité l'année prochaine. Et Oui, cette année, j'ai fait beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup, hein, beaucoup de parcours. Hein, j'ai fait, mais bon, c'est quand on, pour l'instant, je me sens très bien. J'espère que ça va durer. Et puis, j'espère encore faire une quelques années maintenant. Et bon, bientôt arriver à 70 ans, donc j'ai un cap quand même, hein, je pense.
Voilà, 60, ça va commencer à faire, hein, quand même.
Alors, bah
oui, hein, ça vit, ça arrive plus vite qu'on ne veut. Hein, c'est...
Et qui c'est qui est, ouais. Qui c'est qui est plus vieux, la moto ou le pilote là?
Ben, la moto est quand même, elle est 65. Elle est.
Ouais.
Salut. Ouais. Il y a plein de pilotes qui arrivent encore là, toi. C'est. Il y a bon. Plein de gens qui arrivent pour rouler.
Toujours. Ouais. Vous avez des gens de la ici, de la région lilloise, hein, qui sont chez vous aujourd'hui là.
Ben là, oui. Partis, j'ai mon, voilà. J'ai mon qui est juste à côté de moi là. J'ai mon copain donc Xavier Couteau qui est là. Avec son frère.
D'accord.
Voilà. Ils ont. Et lui, Xavier a amené sa petite triomphe, là, une belle petite triomphe là, des années aussi 65.
Et il participe 63, il participe au cross?
Oui, oui. Non, non, il peut pas. Il a mal au dos, je sais pas. Par contre, son frère roule avec une CZ. Là.
CZ,
oui,
ouais,
CZ,
ouais.
Manu, ouais.
Voilà. Ça, ouais. Bon, alors, Nano est à côté de moi, là.
Bah, tu leur dis...
Tu le passes deux secondes.
Deux secondes, on va dire bonjour.
Oui, je le passe deux secondes. Allez, je te le passe.
Ouais, okay. Salut. Ouais.
Nano.
Alors, Xavier.
C'est qui?
Alors, t'es là-bas avec ta Triomphe et tu roules pas?
Ouais, elle n'a pas encore roulé la Triomphe, mais il va rouler.
Ouais.
Ça va? Je viens de finir de rouler avec la TZ, là.
Ah, c'est Manu, là?
Ouais, c'est Manu, ouais.
Ah,
ouais.
D'accord. Et Xavier, il est où, là?
Xavier, il est en train de faire des photos. Bah, le mec arrive.
Ah bon?
Attends, je l'appelle. Je l'appelle, quitte pas.
Il est pas au bar ou...
Attends, c'est Guy, quoi, qui porte.
Attends,
ouais,
c'est
Guy. Ouais.
Oui.
Ouais. Ouais. C'est Guy. Bon, mon Pierre.
En fait, Xavier est en train de.
Dis, oui. Mais quand même, là, aujourd'hui, ça va, il pleut pas, donc ça va être une bonne journée quand même.
Ça va être. On a vu la météo, c'est couvert, mais en fait, pas d'eau. Et là, je vois que ça commence à se lever un peu. Je pense qu'on est près de la mer, donc la marée, ça joue beaucoup.
Bon. D'accord, oui. C'est pas ça.
Là, oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de pilotes? Il y a des Anglais, etc. là-bas.
Ah, là, il y a des, ouais, il y a des beaucoup d'Anglais, oui, Belges. Il y a un peu de gens, de un peu, c'est tout, hein, Belges, Anglais, voilà.
D'accord. Ok.
Et même des Nordistes.
Ah, bah tu vois. Parce que nous, on est habitué à la pluie, alors.
Ouais.
Bon, allez.
Je peux te passer Xavier si tu veux 2 minutes, il est juste à côté de moi.
Bon alors 10 minutes, hein, même pas, 30 secondes. Hein.
Oui.
30 secondes. Hein.
Salut Guy.
Ouais, salut Xavier. Ouais.
Alors, je te présente.
Oui, alors t'es là-bas avec au départ avec ta Triomphe, si j'ai bien compris.
On est là avec la Triomphe et la CZ de Pau, la CZ 64.
Tu comptes faire un temps, Xavier? Tu comptes faire un
Comment
temps? Tu comptes faire un temps, finir premier peut-être de ta catégorie?
Certainement pas. Ne nous faisons pas d'illusions.
Ah bon, bah tant pis. Ouais, parce que toi aussi, hein, tu prends de la bouteille aussi, hein, parce que Pierre nous dit que bientôt il aura 70 ans, mais toi aussi.
Exactement, voilà. On est à peu près à une année près, on a le même âge.
Voilà, exactement. Voilà, oui, oui.
Et tu vois que les vieux, ça tient la route.
Bah oui, ouais, surtout, ouais. Surtout en motocross, j'ai remarqué.
Oui, oui, absolument. Bon, je vous embrasse tous là-bas, et puis bonne émission.
Ok, ça marche, merci Xavier. Salut.
Salut, au revoir. Salut.
Look to die.
Guy, je suis heureux de te dire que nous avons Pascal Audiquet au téléphone qui se trouvait dans une zone non desservie par le téléphone portable.
C'est quand même bizarre, ça.
C'est quand même curieux qu'on paye pour avoir un forfait on doit pouvoir appeler de n'importe où en France et là, il n'y avait pas de téléphone. Et
il monte sur sa voiture, d'ailleurs, voilà. Pour nous avoir. Hein. Voilà. Bonjour Pascal.
Salut Guy.
Ouais, salut. Alors, une petite relation, t'as vu, t'as écouté les Stones, et puis ils vont passer ce mois-ci et le mois prochain, dans la même salle,
ouais.
Hein, tu vois, ouais. Ça chauffe, hein.
Tu vois, justement, demain, je vais aller reconnaître la salle.
T'aurais pas des places, un prix un peu compétitif pour les Stones?
Non, les Stones, non, je vais la reconnaître pour en vue du super quoi.
Ah bon, c'est sûr, là, ouais, bon, d'accord.
Ouais, alors, Pascal... Puis, on voulait te souhaiter, à la radio, un bon anniversaire pour ton 500e Grand Prix.
Hein, merci beaucoup.
Hein, et ton 34e Motocross des Nations.
Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Hein.
Mais dans le 34e, il y a les trophées des Nations.
Non. 34 bon. Motocross des Nations,
Et trophée.
Oh, pas beaucoup, le trophée d'un avoir deux, je crois. Mais je n'ai pas ça en tête, c'est dans l'ordinateur, non. Bah, le trophée s'est arrêté quand même assez... Ça n'a pas duré hyper longtemps, le trophée des Nations.
Non. Tout comme la Coupe des Nations qui a duré 3 ans. Hein.
Voilà, tout
les
à
125,
fait.
Les 125.
Hein. Ouais, avant qu'ils changent la formule où ils mettent toutes les cylindrées au motocross des Nations, comme c'est aujourd'hui. Quoi.
D'accord, ok. Alors, toi, tu étais en Angleterre pour le motocross des Nations, et puis, pas miracle, mais la France, 4e titre d'affilée. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal?
Alors, c'est tout sauf un miracle. Hein. Alors, faut être clair, parce que si tu veux, j'ai la chance de vivre le motocross des Nations dans l'équipe de France. Et si elle gagne, c'est parce que c'est une machine de guerre, hein, comme j'ai l'habitude de dire, que ce soit en enduro... Ils avaient gagné le champion du monde d'enduro par équipe pour la 9e fois cette année. Là, ils gagnent le motocross des Nations pour la 5e fois dans le 4e d'affilée. Écoute, Guy, je pense que c'est avant tout le talent des pilotes, bien sûr, parce que c'est eux qui sont sur la moto. Mais après, c'est un tout, c'est une équipe, un encadrement, une organisation qui fait qu'aujourd'hui, quand tu insères un pilote dans cette équipe, il est pris en charge, entre guillemets, et tout est fait pour qu'il ait qu'à se concentrer sur son pilotage. Donc, il y a eu Dylan Ferrandis qui est arrivé, Steven Frossard sont arrivés en 2014, la France a gagné. Il y a Benoît Paturel qui est arrivé après, la France a gagné. Là, tout le monde se disait, il n'y a pas de Benoît Paturel, il n'y a pas de Dylan Ferrandis blessé, ça va être compliqué avec Christophe Charlier qui est passé l'enduro. Ils ont encore gagné, je veux dire, c'est vraiment un bloc avec à la tête du bloc, il y a déjà des gens de la fédération, il y a le DTN Philippe Thiébaud, il y a l'entraîneur national Pascal Finot, il y a le président Jacques Boll qui est aussi impliqué là-dedans, et puis après il y a un capitaine qui s'appelle Gauthier Paulin, et voilà, une formule qui marche, ça s'arrêtera un jour cette série de victoires, mais pour l'instant, écoute, on va pas cracher dans la soupe, espère une cinquième l'année prochaine aux États-Unis, et puis voilà.
Ça va pas être facile, hein.
Ça va pas être facile, mais à un moment, rien n'est impossible. Et puis, ils vont pas y aller en... À chaque fois qu'ils y vont, de France, c'est pour gagner. Après, il faut mettre tout en place. Il faut qu'il y ait la réussite. Il faut qu'il y ait tous les éléments. Mais jusqu'à maintenant, ça marche. Hein. On avait dit que ce serait compliqué cette année. Ça a été, on va dire, entre guillemets, jamais été aussi facile, puisqu'ils gagnaient 11 points d'avance. On avait dit que ça allait être compliqué à Ernée. Ils étaient chez eux en France, la pression, ils avaient gagné. Ouais, moi, j'y crois, hein.
Oh ouais, non, mais c'est vrai que l'équipe était bonne. Mais concernant, par exemple, Romain Fèvre, hein, parce que, il a quand même fait pas mal de bonnes places en fin de championnat. Et puis là aussi, au Motocross des Nations, il a bien roulé, hein, Romain.
Il a toujours bien roulé, parce que Romain, il fait 3 Motocross des Nations, il les gagne tous les 3. Gauthier Paulin en a fait 9, il en a gagné 4. Donc Romain, il a une réussite de 100%. Je pense que, ont trouvé techniquement, ils sont enfin réussis, ça a mis du temps à trouver la bonne moto qui allait bien au pilotage de Romain. Romain le dit lui-même, il a fait des erreurs avec le team, ils ont fait des erreurs de choix, donc il a trouvé la bonne moto, et puis je pense qu'à un moment, Romain, il était frustré, il a eu 2 podiums de mémoire cette année en Grand Prix,
voilà, ouais.
Il n'a pas eu une victoire de manche, pas une victoire de Grand Prix, donc il était frustré, donc les Nations, c'était vraiment la dernière occasion d'avoir un titre dans sa saison, donc je pense qu'il y avait une... comme tous ses copains, il y avait une hyper motivation, et puis cette course elle lui réussit, il y a peut-être un petit truc, alors que paradoxalement quand on lui en parle, il dit pas que c'est la course de l'année pour lui, c'est pas qu'un grand prix comme un autre.
D'accord.
Mais ça lui réussit super bien, et je pense que je pense que c'est super, et sans doute que cet osmose qui s'est créé dans l'équipe et tout, il l'a peut-être pas aidé parce qu'il n'a pas besoin de ça, mais ça a facilité son super week-end.
Et est-ce que l'équipe de France, elle a eu des sueurs froides quand Romain est rentré dans le parc pour des lunettes?
Non,
mais...
non.
Non, mais bon, non. Avec le nombre de points d'avance, bon, mais bon, il suffisait d'une chute ou quelque chose, enfin peut-être.
Ouais, mais tu sais, je vais dire deux choses. Si l'équipe de France a eu des sueurs froides, c'est lundi avant les Nations, quand ils ont récupéré Christophe Charlier, qui est arrivé du Grand Prix d'Enduro d'Angleterre, qui avait percuté un arbre à 35e, qui avait eu un léger trauma crânien, qui avait des ampoules dans les mains, mais je te dis pas, Romain Fèvre a dit, moi je pourrais jamais rouler avec des mains comme ça. Et c'est là qu'il y a eu une sueur froide. Après, Christophe est monté en puissance tout au long de la semaine, puisque l'équipe de France s'est retrouvée dès le lundi avant les Nations. Il s'est fait à l'équipe, on l'a vu monter en puissance, c'est un garçon qui est dur au mal, et finalement... Après la première manche, quand il a fait 14e, bon, déjà l'équipe s'est dit, bon, ben, il a fait déjà une partie du boulot, mais quand dans la deuxième manche, il a fini 6e, bah ben, là, il n'y avait plus le cas, parce que de toute façon, même si on avait pris le plus mauvais résultat que Christophe Charlier, la France gagnait quand même. Donc, si tu veux, ils sont vraiment arrivés, pas sur deux, mais vraiment sereins dans la dernière manche, parce que Gauthier et Romain, ben, on sait ce qu'ils sont capables de faire, donc tous les deux. Donc, non, après, le circuit était boueux, mais c'était pas l'Indonésie, le Grand Prix d'Indonésie,
où tout pouvait arriver.
C'était roulable quand même. Et on a quand même des pilotes qui ont du métier dans la boue, qui savent rouler dans la boue. Les Français ont toujours su rouler dans la boue.
Ouais, en effet, oui. Concernant, pour revenir au motocross GP, l'année prochaine, il va avoir dans le team KTM Antonio et Jeffrey Herling. Est-ce que tu as un pronostic? Parce que bon, ils sont chez KTM, mais bon, ils font bande à part. Qui c'est qui... Antonio, bon, ça sera peut-être plus difficile, non, pour lui?
Bah, ça sera sans doute plus difficile. Maintenant, Antonio, je pense qu'il ne faut pas le juger sur sa fin de saison, parce qu'à un moment, il s'est un petit peu démobilisé. Disons qu'il s'entraînait moins, s'il craignait de se blesser l'entraînement, il voulait tellement son 5e titre. Aujourd'hui, là... Je pense que Jeffrey, en vitesse pure, il est plus rapide hein, aujourd'hui. Il a gagné un nombre de... Voilà, sur la fin de saison, il a gagné. Dès qu'il a trouvé comment fonctionnait une 4,5, comme il avait un début de saison compliqué, il était quasi intouchable. Quasi, je dis pas intouchable, mais quasi.
Et il chute moins. Il chute moins, quand
oui,
même.
Il chute moins, il prend de meilleurs départs. Et puis, c'est un garçon qui sait toujours où doubler, comment doubler, qui est capable de faire des tours chrono hyper vite. Antonio, je pense qu'il sera toujours dans le coup, mais à mon avis, il sera plus compliqué. Mais tu vois, beaucoup de gens l'avaient dit, Antonio, c'est fini. Et puis finalement, cette année, il a surpris tout le monde. Enfin, il a surpris tout le monde. Moi, je suis pas surpris parce que je l'avais vu en Sardaigne en début d'année et il était vraiment confiant, serein. Tu sentais qu'il était déterminé. Ça va être compliqué, mais Cairoli, il a peut-être un avantage, c'est qu'il, lui, il sait gérer son effort sur l'ensemble d'une saison. Ouais. Bah, Jeffrey a peut-être plus de mal à ça. On verra, mais ça s'annonce encore une super saison. Quoi.
D'accord. Un petit mot sur le team US, bon, 9e. Bon, c'était pas les meilleurs guidons qui sont venus en Angleterre ou il y a eu des problèmes. Donc, j'ai vu qu'il y avait un problème de moto, je ne sais plus lequel.
Colcilly, il abandonne dans les deux manches avec un amortisseur cassé. Voilà, donc, ouais. Ça fait tâche un peu parce que pilote officiel Honda, American Honda, le HRC, les motos qui viennent spécialement des États-Unis pour la course et tout. Donc ça fait un peu tâche. Après, non, ils n'avaient pas la meilleure équipe parce qu'aujourd'hui, le calendrier américain est tellement chargé que bah, les Américains, quand ils ont fini leur championnat, ils veulent se reposer un peu pour préparer le Supercross et attendre le Motocross des Nations. Non, il n'y a plus la motivation. En plus, comme ils ne gagnent plus, bah, les pilotes, les meilleurs pilotes, ils disent « mince, si j'y vais puis qu'on ne gagne pas, je vais me faire rhabiller un petit peu dans mon pays, donc sa cote va baisser un petit peu. » Donc aujourd'hui, c'est un vrai, vrai problème, parce que l'année prochaine, les Nations sont prévues le 7 octobre, une semaine avant la Monster Cup de Supercross. Donc une fois de plus, moi j'ai un peu peur que les meilleurs Américains, même si les premiers aux États-Unis disent « ah ben non, on peut pas, parce que nous on est préparé pour le Supercross, ça c'est du motocross », il y a un vrai problème, et c'est inquiétant, parce que si les Américains venaient plus au Motocross des Nations, bah, ça ne serait plus vraiment la même épreuve. Alors après, il faut aussi dire s'il y a eu des problèmes. Et il y a Thomas Covington qui était passé en 450, qui s'est détruit les ligaments du genou samedi dans une ornière. Il a serré les dents, il a roulé que des ligaments du genou brisés, déchirés. Et il s'est fait opérer mercredi après les Nations. Donc lui, il n'était pas à 100%. Le seul qui a vraiment fait le boulot, c'est Zach Osborne, qui a été super. Mais on savait, c'est celui dans l'équipe qui avait vraiment le plus envie de venir rouler, quoi.
Ok. Dernière question. Bon, bah, cette année, le Supercross ne fera plus étape à Lille. On n'aura plus l'occasion de te voir dans les studios de Radio Campus, Pascal. On avait tout préparé. Hein.
Le champagne, la bière, tout. Ouais,
un
pis.
Bon fauteuil ici.
Bah, écoute, c'est dommage. Après, tu sais, bon, Supercross, retour à Paris. On va dire, hein, faut être logique, la première année, ça a été un succès, un super succès Lille. Ouais. Bon, après, l'effet de surprise passé, c'était un petit peu moins successful,
voilà.
On va dire.
Voilà.
Et puis, il n'y a pas, hein, quand tu veux faire venir les meilleurs Américains, tu leur dis Lille, ils te demandent c'est où sur la carte, tu leur dis Paris, ils viennent avec leurs copines, la Tour Eiffel, machin, truc chouette. Donc,
oui.
Bon, voilà, et puis il y a un public parisien, un public de spectacle, parce que le Supercross, c'est aussi un spectacle. Donc, les fans sont venus la première année, ils sont peut-être venus un peu moins la deuxième et la troisième, et le touriste, enfin, la personne qui veut aller à une soirée faire la fête, eh ben, elle existe plus à Paris qu'à Lille. Donc, retour à Paris, maintenant, on va voir ce que ça va donner, puisque ça va être une grande première cette année.
Et surtout, là, à la deuxième Supercross de Lille, il y a eu l'attentat à Paris aussi, que ça a un peu...
Ça a rien arrangé, rappelle-toi, on était tous sûrs que ça allait être annulé. Quoi.
Ah ouais,
finalement,
ouais,
il a eu lieu, mais quand on a entendu la nouvelle, on a dit, ça y est, c'est mort, il est annulé, il a eu lieu, donc ça n'a rien arrangé. Et puis, bah, la troisième année, ça n'a pas rebondi comme c'était la première. Donc, à un moment, je pense qu'il y a un bilan économique qui est fait. Et voilà, ça repart à Paris. Écoute, on croise les doigts pour que ça se fasse bien. Ce qui va être bien, c'est qu'on va avoir un grand, grand stade, puisque à Lille, on peut se servir que de la moitié, du fait qu'il y a la moitié du stade qui est sur des plateaux élévateurs et qu'on ne peut pas mettre de la terre. Bon, à Paris, normalement, c'est la plus grande piste qu'on aura avec Genève. Donc, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, c'est prometteur parce que il y a une belle affiche. C'est une salle de spectacle conçue pour le spectacle. Voilà.
OK. Et Pascal, on te remercie. Et
ben de rien, on se verra quand même ces jours.
On se verra toujours.
Et Pascal, change d'opérateur téléphonique. Change d'opérateur téléphonique, va ailleurs parce que celui-là que t'as, là, il n'est pas terrible. Hein.
Oui, mais là, je suis dans le Perse, là, du côté de Pélène.
Ah oui, bah donc, il n'y a aucun opérateur qui est valable.
Il y a de la forêt, j'étais dans les forêts, d'accord. Tout ça. Mais tu vois, on arrive toujours à se retrouver. Donc, j'arriverai à passer vous voir au studio, ne t'inquiétez pas. Okay. Hein, mettez les bouteilles au frais, les gars.
Okay, ça
ce sera fait, Pascal.
Salut, Pascal.
Ben, merci à tous.
Salut.
Allez, bonne journée.
Salut, merci.
Au revoir. Like that, your leopard skin pillbox head. You look so pretty.
Bon, Guy, tu me laisses 2-3
minutes. 2-3
minutes. Parce que là, c'est important, parce que hier, je me suis fait engueuler par un motard. Je me suis fait littéralement engueuler par un motard parce que j'avais fait l'interview, la première manif du mois de septembre. Un interview de cette personne qui durait 35 minutes. On peut pas passer un interview de 35 minutes dans une émission de 90.
En effet.
Ou alors, il faut la couper, et puis c'est du boulot, voilà, quoi. Donc, je tiens quand même à passer à un interview aujourd'hui. Hier, c'était la deuxième manifestation. Le slogan, c'était liberté et l'égalité de circuler, la liberté de circuler surtout, parce que à cause de ces fameuses vignettes critères, la Fédé exige le retrait des motos du champ d'application des futures zones de circulation restreintes en cas de pollution. Tu es courant qu'il va falloir acheter une vignette qui va t'empêcher de rouler. En fait, voilà.
Et cette vignette, on la colle sur quoi à
la moto ? Tu la colles où tu peux.
Parce que sur les pare-brises, on peut plus l'enlever.
Voilà. Et sur les motos, tu te la fais piquer en fait, je sais que certains ont déjà collé leur vignette. D'ailleurs, ils auraient pas dû l'acheter d'abord. Ah, et là, ils se sont fait piquer ou déchirer. Voilà. Parce que effectivement, c'est quand même incroyable qu'on ne pourra plus rouler en moto dans les villes. Alors, il y a pas que Lille, hein. Il y a Loos, Aubourdin, il y a quelques villes aux alentours de Lille. Hein, qui seront donc interdites en cas de pic de pollution ou même d'âge de la moto ou du véhicule.
Alors certaines villes, tu peux, qui touchent, comme par exemple Villeneuve-d'Ascq, tu peux rouler.
Alors Villeneuve-d'Ascq, je pense que on peut rouler à Villeneuve-d'Ascq, voilà. Donc il ne faut pas désespérer, parce qu'on a piqué un truc sur Internet, c'était dans Motomag de il y a quelques jours, hein. Le Sénat dénonce une politique de sécurité rentière. Voilà, c'est bien ce que je veux dire. Hein. Alors ça vient du Sénat, vous savez que ça...
Ça va faire plaisir à Jean-Yves, ça.
On va nous repasser son petit poème qu'il nous a fait, là. Hein. Voilà, hein. L'espère, parce que vous savez que le Sénat a été revoté, là, donc la majorité, elle n'est pas pour Macron, elle est pour droite, mais bon, voilà. Mais quand même, l'expert au Sénat chargé de la sécurité routière vient de fusiller, mais à mot couvert, quand même, hein. Pas vraiment en le disant tout bas quand même, la politique de déploiement massif de radars sur le territoire français. L'homme pointe une politique qui sert plus les finances de l'État que la sécurité des usagers. Guy, ouais, on pense tous la même chose. Parce que de toute façon, plus il y a de radars, plus on voit les chiffres de la mortalité. Hein, on voit que ça augmente depuis 2-3 mois, même 6 mois, les chiffres de la mortalité augmentent. Alors c'est pas les radars qui font que voilà, c'est pas la solution. Bref, voilà. Donc on avait, j'ai quand même fait l'interview parce que j'étais un peu quand même refroidi par notre ami là qui nous a dit des trucs, des choses pas sympas quand même pour nous et la radio en plus, voilà. Donc j'ai quand même fait une interview de DJ De Fénin, qui était le coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère.
Bon, alors satisfait du nombre de motards aujourd'hui prêts pour cette manif?
Ouais, alors là, malgré le temps qui est pas super, on en a quand même une belle file là. On doit être à 700-800 déjà là. Et tout le monde n'est pas arrivé. Donc,
c'est pas arrivé encore, hein.
Ouais, le départ c'est qu'à 14h40. Donc là on a un beau nombre déjà de motards.
Tu les sens motivés là?
Ouais, tout le monde est motivé pour pouvoir rouler toute l'année au centre de Lille.
Ben voilà, il faut rappeler pourquoi on manifeste aujourd'hui aussi.
Voilà, donc on se bat contre les interdictions de circulation dans les grands centres-villes. À Lille, l'agglomération lilloise, il y a quelques villes qui sont en train d'étudier pour mettre en place ce dispositif. Et nous, on veut absolument que les motos soient exclues, puisque la moto, c'est pas une pollution, c'est une solution dans les grandes agglomérations comme Lille. Si 40% des automobilistes qui sont bloqués tous les matins là, et qui sont seuls dans leur véhicule utilisent une moto, il n'y a plus de bouchons. Il n'y a plus de bouchons sur la 1, sur la A23, sur la A25. Donc il faut que les automobilistes passent à la moto. Mais pour ça, il faut que la métropole lilloise fasse les efforts pour pouvoir les accueillir dans les bonnes conditions. Des parkings moto, des aménagements adéquats, supprimer les poteaux en ferraille qui sont mal placés et mettre des poteaux en mémoire de forme. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors nous, on estime être des experts dans ce domaine. On est à leur disposition. Le problème, c'est que souvent, ils ne veulent pas nous entendre.
Alors comment ça se fait que c'est pas la première manif, hein, c'est pour la vignette critère en fait. Comment ça se fait qu'ils veulent pas nous entendre? Parce que c'est logique ce que tu viens de dire.
Ouais, c'est logique, mais politiquement incorrect. Le problème c'est ça, c'est que c'est politiquement incorrect. La moto, elle n'a jamais été considérée comme... On n'est pas considéré comme des citoyens ordinaires. Il y a des électeurs. Et comme là, quand il y a des choses sur la mobilité, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on n'est jamais convié. On est complètement ignoré. Et pourtant, Dieu sait si je leur écris, si on les sollicite. Mais ils ne nous prennent pas en considération.
C'est bon dans la démocratie, hein, le citoyen n'est plus entendu en fait.
Alors le citoyen n'est déjà pas tellement entendu, mais le motard encore moins. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de se faire entendre régulièrement et d'aller sous leur fenêtre leur rappeler. Et le préfet ne donne pas de bon exemple, parce que à la manifestation du 13 mai, il avait pris des engagements pour nous recevoir, au moins pour analyser les accidents. Et depuis le 13 mai, on n'a jamais été invité. Donc là, on va revoir la même personne, parce que dans le courrier, je lui ai dit que c'était un menteur, pour qu'il se rappelle un peu de nous. Et donc on va aller le ressolliciter pour que il travaille sur le problème de la sécurité routière. Et en plus, depuis cette affaire, parce qu'on travaille quand même, nous, avec des élus de proximité, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'agglomération au niveau de Dunkerque qui s'occupe de l'entretien des voiries. Et je me suis rendu compte qu'ils n'ont même pas de veille pour savoir les accidents qu'il y a sur tel et tel carrefour. Donc ils ne peuvent pas déterminer qu'une voirie est dangereuse ou pas. Donc c'est très grave. Et le préfet, c'est quand même le coordinateur de tous ces services d'État sur le département. Donc c'est sa responsabilité qui est engagée. Donc on va aller lui rappeler tout à l'heure.
Ça veut dire que ce ne sera pas la toute dernière manifestation, à mon avis?
Alors, j'aimerais bien que ça soit la dernière, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes qu'on y arrive en une manifestation. Il faut rester mobilisé et se battre continuellement.
Très bien, monsieur, merci.
De rien. You can bear me up to my knees and shit.
It's beautiful.
Guy, nous avons José du motoclub Highway 62 pour une exposition de motos anciennes à Calais qui aura lieu le 21 et 22 octobre.
Bonjour José.
Ouais, salut Guy.
Ouais, salut. Donc, deuxième exposition pour la deuxième année consécutive. Parce que la première année, ça a marché, il y avait du monde, il y avait pas mal de motos, j'étais présent. Comment se présente cette année l'exposition ?
Bah écoute, beaucoup de personnes, dont moi, honnêtement, ont été surpris l'année passée par l'engouement que ça représentait. On fait plus de 1600 entrées payantes et on avait du beau matériel. Cette année, ça va être l'extase, j'allais dire, parce que là, je suis en train de faire le point, justement. Et l'implantation des bécanes, on va avoir du lourd. On va avoir une centaine de bécanes, dont une quinzaine de scooters, mais on va avoir surtout, par exemple, 1000 Ariel Square Four pour les connaisseurs. On va voir celle que tu connais bien, la 500 Vélo 7 MMS de Didier. On va avoir du side Vespa, on va avoir du side Nimbus, on va avoir du BSA, du Triumph à foison, plus des vieilles, des ancêtres là des années 20 à 50, on en aura une trentaine. Et du Youngtimer, alors là aussi, pareil, 750 H2, 500, la fameuse Mach 3 faiseuse de veuve.
Et la 500 CX. Des 500 CX.
Peut-être une 400.
Une 400, plaisir, mais... une 400 CX, ouais.
Elle est plus rare, elle est beaucoup plus rare.
C'est Youngtimer,
ouais. Non, en Youngtimer aussi, il y aura du beau matos, donc du Yamaha RD, il y aura du... Beaucoup de Kawa, j'y tenais au Kawa parce que j'ai un copain qui était coincé l'année passée, ses Kawa étaient chez un restaurateur qui lui a posé un lapin, donc il va nous les amener cette année, et puis bon, toutes celles du club, 650 XS, du XJ, du FJ, du Genesis, enfin, seuls les collectionneurs, j'allais dire, vont pouvoir s'y retrouver un petit peu dans toutes ces appellations, mais il y aura vraiment du beau matériel. Plus c'est sur les affiches, mais manque de chance, j'ai pas eu l'occasion d'aller en poser sur l'île. Et cette semaine, je travaille sur Dunkerque, ce sera pas fait non plus. On aura donc le samedi soir un concert rock de 18 à 20 heures. L'an passé, on l'avait fait dans la journée, mais bon, c'est vrai que c'est bruyant et certaines personnes s'en sont plaintes. Donc on fera un concert rock de 18 à 20 heures avec le groupe Retro Rock et son fameux bassiste Jacques Dussautoir, ce qui nous permettra aussi, bon, il faut être honnête, de faire tourner la buvette et puis les quartiers de tarte.
Voilà.
Donc voilà, ce sera le samedi, une journée qui démarrera donc à 11h, qui se terminera à 20h, et le dimanche de 9h à 18h. Et à partir de 18h, il faut vider la salle, où il y aura 100 bécanes et...
Et c'est dans la halle, de la place d'armes de Calais, hein. C'est bon, c'est
et facile. Et tout ça, oui, comme l'année passée, dans la grande halle place d'armes à Calais.
D'accord. Et l'entrée est à 2 €.
Direction de la plage, entrée 2 €. Et qu'est-ce que je peux encore dire ? Bon, il n'y a pas de bourse parce que.
Enfin, il y avait j'ai vu que l'année dernière, ils vendaient des bouquins là. Ben, des anciens bouquins de la vie de la moto, j'ai vu.
Alors cette année, moi, je ramène, je sais. J'ai 500-600 revues moto, ce sont des motos, des revues gratuites. Les gens prennent celles qui les intéressent, moi c'est ce que je leur demande. De toute façon, comme c'est moi qui ai le micro sucette, j'en parle régulièrement. On prend les numéros qui nous intéressent et c'est gratuit.
D'accord, donc c'est gratuit, on se sert.
C'est un don, ouais.
D'accord.
Ouais. Donc bon. Là, il n'y a pas de souci, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème.
Bon ben voilà, ben écoute José, voilà, tu es passé à la radio... la région de Lille sait que l'exposition aura lieu le samedi 21 octobre et le dimanche 22 octobre et que l'entrée est à 2 € à Calais.
L'entrée à 2 €, ouais.
Je te remercie, José.
Et petite restauration, donc.
Et petite restauration et buvette, bien sûr.
Et buvette, bien sûr. On peut faire de la pub pour la bière, ce sera de la genre.
Elle reprend du goût, la Jeanlin, hein, parce que c'était devenu vraiment un peu pas terrible. Hein. J'ose pas dire le mot. En fait. On était passé plutôt à trois mots, mais bon, la Jeanlin, comme voilà. Bon, enfin, bref, une signification, il faut pas en parler. Bon, voilà.
Allez, José.
Voilà.
On passera.
Bah, écoute, je vous remercie tous de votre accueil. Et puis, bah, j'espère vous voir. Toi, je te vois.
Ouais, je viendrai. Ouais. Ouais,
et puis,
pas de problème.
Tu peux venir avec tes copains de la radio. Hein.
Ouais, bon, ouais, bah, si, si, on fera. On fera un petit bus.
On pouvait faire un train, hein, le TGV arrive jusqu'à Calais.
Oh, ah, d'accord, vrai. Ça marche.
Allez, salut.
Au revoir.
Au revoir. Guy, il nous reste une dizaine de minutes où on va parler de Supercross qui déménage de Lille à Paris maintenant. Mais retour aux sources.
Eh oui. Et...
grâce à la Tour Eiffel, c'est ce qu'il disait Pascal.
Voilà. Il y a Pigalle peut-être.
Et Pigalle peut-être aussi, qu'on n'a pas nous à Lille. Bien que. Bien que.
En cherchant bien. Alors, trois petits tours et puis s'en vont, hein, parce que bon, le Supercross de Paris-Bercy a fait étape à Lille, étant donné que Bercy était en travaux. Et ben voilà, cette année, le Supercross retourne à Paris, retourne à l'U-Arena de Nanterre, c'est près de la Défense.
Alors ça, c'est toute nouvelle salle.
C'est toute une nouvelle salle. Hein. D'ailleurs, il y a les Rolling Stones qui vont faire 3 concerts ce mois-ci. Et pour revenir un peu à l'historique, ça fait quand même exactement 33 ans que la moto a pénétré dans la salle de Bercy, hein, dans le palais Omniport de Paris, de Bercy. C'était en mars 84. J'y étais, je me rappelle.
Bravo.
Ah, ouais.
C'est pas hier.
Non, j'ai eu une médaille d'ailleurs.
C'était avant hier.
Voilà. Et Paris, parce que tout à l'heure on parlait avec Pascal Audiquer. Malheureusement, la première année, c'était quand même la foule, hein, c'était rempli. La deuxième année, malheureusement, il y a eu l'attentat, c'était au Bataclan, je crois. Hein, alors c'était à deux doigts d'être annulé. Bon, ils l'ont fait quand même avec des fouilles, enfin, etc., quoi. Et c'est-à-dire que les organisateurs pensaient que faire le Supercross à Lille, parce que c'était le seul stade couvert qui, en France, hein, avec la proximité de la Belgique et de l'Angleterre. Mais là, par exemple, la Belgique, bon, le Supercross, c'est pas leur tasse de thé.
C'est le cross.
C'est le cross, ouais. dans la bonne terre ou dans le bon sable. Mais pas, il n'y a pas eu des masses de Belges, ni d'Anglais d'ailleurs, pareil. Alors, cette nouvelle salle, elle peut contenir 24 000 personnes quand même en configuration Supercross. Hein. C'est-à-dire plus qu'à Lille, parce qu'à Lille, elle était coupée en deux. Hein, parce que bon, une partie de l'île s'est montée sur hydraulique et donc ils pouvaient pas mettre de la terre.
Oui, parce que ça ramène, je sais plus combien, 60 tonnes de terre.
Enfin, je sais plus. Alors bizarrement, la terre, elle était restée juste à côté de du stade, Pierre Mauroy, pour cette année. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette terre. Ils vont le transporter dans les champs de betteraves, sûrement. Donc, voilà, la troisième année, c'est fini, c'est revenu à Lille. Alors, cette manifestation était aussi influencée par le championnat américain, parce que, bon, c'est en Amérique qu'ils ont commencé à faire des supercross. Et, ça a marché, hein, en France, à Bercy, tout de suite. Bercy, ça a été... connu par les Américains. Parce que comme disait Pascal Audiquer, si on dit aux Américains « Vous venez à Lille », Lille, ils ne connaissent pas.
Ah oui, Paris, tout de suite. Tout le monde connaît.
Les petites Françaises, etc., sûrement. Hein,
c'est pour ça que les attentats ont lieu à Paris, parce que tout le monde connaît Paris sur la planète. Voilà.
Alors, pour revenir à Bercy, Bercy a aussi eu... un faste particulier de légendes du cross américain comme David Bailey, Ricky Johnson, Jeremy McCroy, Chad Reed ou James Stewart. Tu vois, c'était le pilote noir, là. Et il y avait aussi les Français qui ont bien marché à Paris, à Bercy, comme Jean-Michel Bell ou David Villemain. Donc, le Supercross aura lieu le 18 et le 19 novembre à Paris, à l'aréna de Nanterre. Le samedi, ça commence à 20h et le dimanche à 15h. La salle ouvrira ses portes 1h30 avant le début parce que il va y avoir une fouille maintenant avec les plans Vigipirate, etc. Et alors, toutes les places assises sont numérotées et la salle est chauffée. Alors que la salle de Lille n'était pas chauffée. Il y a un groupe là qui a. Je ne sais plus lequel.
On faisait couvert quand même.
Ouais.
Non, mais c'est réglé ça. Ouais. C'était des pêches mode. Ah
ouais. Ils n'étaient pas à la mode.
Ah oui, ils avaient refusé de jouer parce que la scène n'était pas chaude. Oh,
ils n'avaient pas des pulls à la mode. Ouais. Alors, les prix des places, premier rang 110 euros, deuxième catégorie 94, 79 et 65 euros. Et Radio Campus, Kikaku a le plaisir. À ses auditeurs d'avoir 4 invitations gratuites. Alors écoutez bien la radio, ça sera dans pas très longtemps.
Surprise. Alors,
surprise, c'est quand même 4 invitations à 94 euros. Donc c'est pas des places au rabais.
Hein. D'accord. Voilà, c'est tout, Guy. On passe un morceau de musique? Non, hein, pas possible. Hein.
Tu devais pas passer une interview
25.
Ah oui,
non, mais faut le dire. Sinon, je mets de la musique et on le passera pas, parce que s'il sera trop tard.
Passe de la musique.
D'accord. Alors c'est parti, en musique.
Bon Guy, il nous reste 1 minute 30 avant le générique. On va parler du calendrier du championnat de France des courses sur sable 2016-2017. Alors c'est pas le 2016-2017, c'est 2017-2018.
Alors la première aura lieu à Berck-sur-Mer, c'est ça, la semaine prochaine.
Voilà, ensuite le 28 et 29 octobre, ce sera la Ronde des Sables, donc à Lomme-Plage. Le 2-3 décembre 2017, donc endurance des lagunes à Saint-Léger-de-Balzon, voilà. 9 et 10 décembre, ronde des sables à Osgore.
C'est ça.
Je te laisse terminer avec l'apothéose.
C'est le championnat,
championnat
du monde des rallyes, dont le Dakar. Hein, c'est commencé au rallye du Maroc justement aujourd'hui, mais le rallye était neutralisé à cause des pluies. Les rivières débordent, etc. Et en piste, il y a Adrien Van Beveren, qui s'est perdu d'ailleurs, mais il a trouvé les spéciales belles et amusantes. Alors, c'est vous dire.
Bon, c'est très bien. Alors, je pensais que tu allais parler, d'aller finir donc ce fameux calendrier du championnat de France des courses sur sable. Hein, il en reste deux, je ne les ai pas cités. Alors, est-ce que tu les as devant les yeux? Alors, il reste Graillon l'hôpital.
Oui.
Donc, 9 et 7 janvier 2018.
Oui.
Tape pas trop dans le micro quand même.
Non, mais.
Voilà. Et la grande finale. L'Enduropale.
Donc,
forcément. Donc, 27 et 28 janvier 2018. Et voilà.
Et voilà. Et dernière information, hier soir, avant-dernière épreuve du championnat du monde de speedway en Pologne, et c'est un Polonais qui gagne. C'est bizarre quand même.
Bizarre. Hein.
Mais bon, il est quand même à 20 points du l'Australien, pardon. Johnson Doll. Bon,
c'est à peu près pareil, hein, Nouvelle-Zélande et Australie, ils sont cotés.
Ouais, c'est comme la Belgique et la France, quoi. Hein.
Bon, merci Guy. On rappelle qu'on peut retrouver toutes ces émissions sur le site de k1c.fruit.fr. K1c, K, le chiffre 1. La lettre C, voilà, et vous pouvez aussi laisser des informations sur le forum, voilà. Passez un bon dimanche, Guy, passez un bon dimanche et une bonne semaine, on se retrouve dimanche prochain, Guy, au revoir aussi,
et
on se retrouve
le mois prochain.
Merci Laurent.
Eh bien, bon week-end, bonne fin de week-end, au revoir, à bientôt.